Et tout de suite, Madame Christine Chamé, à vous aussi.
Merci. Merci. Je vais reprendre le cours de la discussion là où les orateurs précédents l'ont laissé. Ah, vous n'avez pas entendu? Est-ce que ça va comme ça? Non? Est-ce que comme ça, ça va? Non? Attendez. Ah bon, il faut absolument qu'il m'agresse comme ça. Voilà. Merci. Alors, je vais reprendre ce que viennent de dire les deux orateurs précédents sur la lenteur et sur le fait qu'il n'y a pas à espérer quelque chose de rapide. Et pourquoi ? Eh bien, parce que je pense, enfin, pour avoir quand même étudié la question sur le plan juridique, la question des colonies, je ne parle pas de Gaza ni de rien d'autre, je parle de la question que je connais pour avoir présidé la commission d'enquête sur les colonies en Cisjordanie. Le procureur n'a pas d'autre choix que d'attendre, parce que juridiquement, tous les arguments juridiques que vous avez évoqués peuvent être balayés. C'est une situation qui se trouve, et c'est l'ambassadeur de Palestine, M. Mansour, à New York, qui le dit. Notre position est juridiquement très forte, mais nous sommes politiquement faibles. Faibles pour les raisons que William a évoquées et sur le fait que faire une enquête, passer de la procédure préliminaire à l'enquête, serait un véritable séisme dans la communauté internationale et pour Israël. Bon, cela dit, il existe, ce n'est pas nul, le temps n'est pas nécessairement négatif parce qu'il y a toujours cette menace. Et la menace est d'autant plus forte que, comme je vais essayer de vous le montrer, la position juridique est, à mon avis, imparable. Alors, la question que Mme Aoun a évoquée sur la compétence, disons la qualité d'État de la Palestine faire partie et être membre de la Cour pénale internationale. Là, il est vrai que la Cour pourra toujours rediscuter cette question. Mais on n'en est pas là. On n'en est pas là parce que le procureur, de manière très précise, dans tout ce qu'elle a donné comme interview, et même dans ce qu'elle a fait, dans l'examen préliminaire auquel elle se livre, a décidé qu'il n'y avait pas d'obstacle à considérer cette adhésion comme étant pouvant nuire à toute forme d'enquête de sa part. Elle a d'ailleurs fait valoir que le secrétaire général de l'ONU, qui est dépositaire du traité de Rome, pouvait très bien faire une objection s'il avait considéré que la Palestine ne répondait pas aux questions, n'était pas en mesure de pouvoir adhérer, ce qu'elle n'a pas fait. Cela ne veut pas dire que cette question ne sera pas reconsidérée. Elle le sera très certainement au niveau de la recevabilité lorsque la question viendrait devant la Cour. Mais on n'en est pas là. Déjà, pour passer les premières étapes, et en particulier l'ouverture d'une enquête, cette question n'est pas un obstacle. Ensuite, la question pourra être redébattue, comme l'a dit Mme Aoun, et à ce moment-là, on pourrait peut-être voir la question que vous avez vue dans le petit opuscule. La position du professeur Pellet à cet égard, et très certainement, cette affaire pourra être discutée à perte de vue. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est l'ouverture d'une enquête et ce que la procureure doit examiner au regard de l'article 15 du statut de Rome et de voir si les renseignements dont elle dispose sont suffisamment sérieux et s'il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête. Elle doit chercher des critères positif pour voir s'il y a un crime relevant de la compétence de la Cour. Elle doit identifier ce crime comme étant un crime qui fait partie des crimes visés par le traité de Rome. Ensuite, il faut aller au-delà des conditions d'irrecevabilité. Il faut également que la Cour soit compétente, c'est-à-dire qu'elle soit compétente parce que l'État n'est pas en mesure lui-même d'exercer sa compétence. Il faut, comme l'a dit Madame Aoun, qu'il n'y ait pas d'obstacle tenant à l'intérêt de la justice et il faut que l'affaire soit suffisamment grave. Alors, comment appliquer ces critères à la Palestine? Tout d'abord, je pense que l'appui le plus sérieux sur lequel elle a très certainement dû travailler, c'est la décision de la Cour internationale de justice de juillet 2004 qui dessine exactement la situation, à savoir que des questions qui ne pourront difficilement plus être contestées, qui en tout cas, pour elle, le procureur, n'est pas considéré comme un obstacle, à savoir qu'il s'agit bien de territoires occupés, comme le dit la Cour, que ce statut de territoire occupé confère des obligations à la puissance occupante et en particulier l'oblige à appliquer les conventions de Genève de 1949 et à s'abstenir de procéder à la déportation ou au transfert de sa population dans un territoire occupé. Et la Cour internationale de justice, dans sa décision de 2004, au paragraphe 120, a considéré que cette colonisation se faisait en méconnaissance du droit international. C'est donc la colonisation elle-même qui est dénoncée par la Cour. La Cour ne se prononce pas sur le traité de Rome. Elle n'était pas saisie de ça. Mais elle considère qu'il y a une méconnaissance de l'article 49 des conventions de Genève. Or, la mission d'enquête est allée un peu plus loin et a regardé le traité de Rome et en particulier son article 8.2 petit 8 qui qualifie crime de guerre le transfert direct ou indirect par la puissance occupante d'une partie de sa population dans le territoire qu'elle occupe. Donc, l'article 8 du statut de Rome va au-delà même de l'article 49 de la Convention de Genève. En revanche, il exige que cela soit le fruit d'un plan et d'une politique déterminée. La commission d'enquête a recherché tout ce qui pouvait montrer que l'établissement des colonies constituait un transfert, même s'il ne s'agissait pas d'un transfert forcé, il s'agissait tout de même d'un transfert, même si les gens étaient tout à fait d'accord pour occuper cette partie du territoire, c'était tout de même un transfert, et que ce transfert était appuyé par une politique israélienne délibérée. Je ne reprends pas tout ce que vous verrez dans le petit opuscule sur toutes les preuves qui d'ailleurs maintenant sont soumises à la Cour pénale, les preuves sur le budget doublé, sur les infrastructures, sur tous les services publics, sur tout le budget qui est consacré aux colonies par le gouvernement d'Israël. Alors, la difficulté n'est pas de prouver qu'il y a un crime de guerre et qu'il y a donc un transfert de la population vers le territoire occupé. Le problème, c'est d'identifier les auteurs, parce que ce n'est pas un État qui est jugé, ce sont des personnes. Donc, lorsque le gouvernement de Palestine donne des arguments et les ONG donnent des faits, des preuves au procureur, ça ne l'aide pas complètement. Ce qu'il faut, c'est identifier des personnes. Et identifier des personnes qui permettent à la Cour d'exercer sa compétence, c'est-à-dire des faits qui entrent dans son champ de compétences rationnées temporis. Mais d'une certaine manière, ça n'est pas extrêmement difficile parce que c'est une opération qui est en cours. Ce n'est pas comme s'il s'agissait de juger les crimes du passé. Là, il s'agit de juger des faits qui sont assumés d'une certaine manière par le gouvernement israélien, par les forces israéliennes, et qui, en plus, sont revendiqués comme tels et en cours d'exécution. Alors, s'agissant de la complémentarité, c'est-à-dire la possibilité pour les juges nationaux de juger ces faits, là, il n'y a, à mon avis, pas non plus beaucoup de problèmes, puisque la question a été souvent soumise à la Cour suprême d'Israël, qui a considéré que la colonisation n'était pas justiciable. Donc, à partir du moment où l'État, lui, ne veut pas entendre parler de la Cour pénale, et même les juridictions considèrent que ça ne relève pas de leurs compétences. Bon, dans ce cas-là, le problème de la complémentarité me paraît résolu. S'agissant de la gravité des faits, là, il y a évidemment une partie de subjectivité. Mais alors, là, je pense que le procureur, il regardera à deux fois, d'abord pour ne pas dire que les faits sont graves, étant donné ce qui se passe dans les territoires, en particulier les dépossessions, les évictions, les destructions de maisons, les terrains qui sont déclarés du jour au lendemain zone militaire et qui, trois jours après, sont donnés à des colons. Donc, le fait que l'implantation constitue un véritable maillage et constitue en réalité une annexion rampante, rendant impossible l'exercice du droit à l'autodétermination, on voit mal le procureur venir dire qu'il ne s'agit pas là de faits graves, d'autant plus qu'elle a été un petit peu échaudée par la décision qu'a rendue la chambre préliminaire, parce que bon, ce qui était dit dans l'opuscule et que William avait développé, c'est que même si elle prend une décision de ne pas poursuivre, la chambre préliminaire peut toujours dire le contraire. C'est exactement ce qui s'est passé pour la petite flottille, là. La flottille qui avait été arraisonnée par les autorités israéliennes. Et bon, la procureure avait considéré qu'après tout, il y avait deux, trois morts. Ce n'est pas si grave que ça. Et là, elle s'est fait retoquer par la chambre préliminaire qui a dit pas du tout. Et l'a renvoyé l'affaire en lui disant qu'elle devait réexaminer cette affaire, qu'elle n'avait pas apprécié la gravité comme il fallait, que l'arraisonnement s'était fait dans des conditions assez dramatiques, et surtout qu'on devait prendre en considération, ça c'est très important pour l'avenir et pour l'appréciation de la gravité, on devait prendre en considération la totalité du contexte. Donc, devant ce jugement, je pense qu'elle hésitera à deux fois avant de considérer que les faits ne sont pas graves. Donc, crime de guerre, crime d'une particulière gravité. Non seulement il y a les destructions de maisons, mais tout ce que vous savez sur la confiscation des ressources naturelles, la multiplication des checkpoints, l'impossibilité de circuler normalement, et surtout la violence des colons. Les colons bénéficient, sauf pour un cas là, dramatique qui avait fait un petit peu quelque effet médiatique, bénéficient de tous les droits, alors que les Palestiniens, eux, sont soumis à un régime de propriété extrêmement compliqué. On leur demande de présenter des droits de propriété datant de l'Empire ottoman. Après, il faut que ça soit confirmé par le mandat britannique et reconfirmé par, sous le mandat jordanien. Mais vous savez qu'il y en a qui arrivent. Hein. On en a trouvé, oui, oui, oui. Il y en a qui arrivent avec des grands parchemins. Ils arrivent et ils arrivent avec tout ça. Mais malgré tout, ils ont bien des difficultés. Et je dois dire à cet égard quand même qu'il faut pas, c'est pour, là où est toujours attaqué, traité d'antisémite quand on attaque Israël, il faut bien dire que toutes ces informations, nous les avons eues à la commission d'enquête par la société civile israélienne, par cette partie de la société civile israélienne qui n'adhère pas du tout, qui n'adhère pas du tout à ce comportement, qui ne supporte pas cette colonisation, qui ne veut pas dire que cela est fait en son nom, et qui nous a abreuvé d'informations, mais qui malheureusement n'arrive pas, compte tenu du système institutionnel et électoral en Israël, à gagner quelque élection que ce soit. Donc les Palestiniens donc, sont soumis également à la justice militaire. Alors là, bon, moi j'avais un chiffre de 2012 de 4100 Palestiniens détenus sans jugement. Maintenant, il y a peut-être une évolution compte tenu des derniers événements, et surtout des mineurs de 16 à 18 ans qui sont détenus en Israël en violation complète des conventions de Genève. Je sens que je suis au bout de mon temps de parole. Je voulais simplement attirer votre attention sur la question de l'intérêt de la justice. C'est vrai qu'il y a cette formule très gênante dans l'article 53 du statut de Rome qui permet de renoncer à une enquête au motif qu'elle serait contraire à l'intérêt de la justice. Mais je crois quand même, il n'y a pas de jurisprudence dans la Cour pénale sur ce sujet-là. Il y a déjà de la jurisprudence dans d'autres instances internationales sur la notion d'intérêt de la justice. Mais on pouvait imaginer que quelqu'un de très âgé avec un handicap très lourd ne pourrait pas faire l'objet de poursuites. Mais je crois quand même qu'il serait extrêmement difficile de se servir de la notion, ce serait quand même assez paradoxal, de la notion d'intérêt de la justice pour en arriver à une impunité. L'intérêt de la justice, c'est plutôt pour éviter une mesure de procédure. On n'entend pas un témoin parce que c'est compliqué. Bon, c'est plutôt sous cet angle-là que ça a été toujours utilisé de manière complètement prétorienne. Je sais que la FIDH s'était beaucoup inquiétée de cela. Et je ne pense pas que ça soit vraiment possible que du jour au lendemain, l'enquête ne se fasse pas sous prétexte que c'est dans l'intérêt de la justice, parce que ce serait complètement incompréhensible. D'où la difficulté pour le procureur, et d'où la seule solution qui est celle qu'elle adopte, c'est-à-dire eh bien, continuer à enquêter à perte de vue et sans limite de temps. Bon, quand même, on n'est pas en 2021. Peut-être que précisément, avant, soyons optimistes, avant de quitter ses fonctions, elle peut-être pourra ouvrir cette enquête. Mais encore une fois, je pense qu'il faut également que le gouvernement palestinien prenne en compte l'aide d'une certaine manière et prenne en compte le fait qu'il faut identifier des personnes, que ce ne sont pas, c'est pas un État, parce que si c'était un État, ce serait très facile. Mais là, il faut identifier des personnes qui répondent à tous les critères. Et le problème va être que pour trouver des personnes qui répondent à tous les critères, donc qu'il soit concerné par la totalité du système des colonies, il va falloir taper le plus haut possible. Parce que là, il est impossible, il ne peut pas opposer aucun des causes d'irrecevabilité n'est opposable, même pas l'immunité. Donc voilà. Voilà tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup.